Rebienvenue au balado Les Petits Caractères, l'espace de discussion qui vise à poser un regard critique sur les enjeux de consommation qui vous préoccupent et qui me préoccupent aussi. C'est la raison pour laquelle je suis votre animatrice. On débute l'épisode d'aujourd'hui avec une chronique qui est présentée par Alexandre. Puis Alexandre, je dois t'avouer, je suis hyper curieuse. J'ai vu le nom de Andrew Tate passer dans le programme. Je me demande, c'est où que tu veux nous amener avec ça?
Oui, ben en fait, pour ceux qui sont moins branchés sur les médias sociaux, Andrew Tate, c'est un ancien sportif devenu influenceur qui a connu beaucoup de succès sur les médias sociaux et qui réussit beaucoup à faire parler de lui en raison de ses prises de position que je qualifierais, moi, de complètement arriérées.
Ouais, puis toi, en fait, j'ai oublié de le dire, mais t'es avocat pour Option Consommateur.
Effectivement.
Ouais, puis il a été banni des réseaux sociaux. Pourquoi tu penses? Est-ce que c'est quelque chose qui...
Ben, il a été banni essentiellement pour ses prises de position, ses affirmations misogynes, ouais. Qui respectaient pas les standards des communautés. Mais mon but aujourd'hui, c'est pas tant de parler du personnage hautement discutable qu'est Andrew Tate, puis de ses opinions qui datent, bon, d'un autre siècle, mais surtout de son modèle d'affaires qui apparemment l'a rendu très riche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Andrew Tate a créé ce qu'on appelle la Hustlers University, qui est en fait une entreprise qui offre des formations en ligne pour supposément devenir riche comme lui. Puis le concept, en gros, c'est qu'en échange d'un paiement de 50$ par mois, on a accès à son programme de formation sur Internet qui va nous apprendre à faire de l'argent comme de l'eau.
Puis comme tu as dit, il fait pas l'unanimité, loin de là, ses propos. Moi, en tant que femme, certaines personnes disent « Ah, mais tu sais, ça n'a pas autant à vous fâcher, ça n'a pas blablabla. » Mais tu sais, veux pas la colère, être fâchée, c'est une émotion que tu vis quand que tu te sens... quand tu sens qu'on empiète sur ton territoire, puis quand il y a des propos comme ça qui tendent vraiment à réduire notre liberté puis les droits qu'on a acquis avec les années, c'est sûr que ça choque. Mais je pense que la question qu'on avait tous, même si nos avis étaient partagés, c'est comment il faisait son argent.
Ouais. Puis il se présente sur les médias sociaux avec son cigare puis avec ses voitures exotiques et tout ça. Il donne l'impression d'être quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Puis c'est un peu ça son modèle d'affaires, hein? C'est dire aux consommateurs, vous pouvez devenir riche comme moi si vous vous abonnez à la Hustlers University. Puis jusqu'à récemment, il y avait vraiment une particularité à son entreprise, c'est que les abonnés à son programme de formation, à la Hustlers University...
Dis-le trois fois, là.
Hustlers University.
Parfait.
Mais en fait, c'est Hustlers University 2.0. 2.0.
Un cours d'anglais.
Fait qu'un 2.0 pour dire que c'est en ligne complètement.
OK.
Puis c'est un modèle d'affaires, en fait, qui est particulier, qui était fondé vraiment sur le recrutement. Donc, à chaque fois qu'un internaute réussit à embarquer un autre internaute dans le programme de formation d'Andrew Tate, il recevait un pourcentage du montant que cet abonné-là payait. Donc, les abonnés avaient tout intérêt à faire la promotion de la business d'Andrew Tate partout sur les médias sociaux. Puis c'est ça qui explique aussi son très grand succès sur les plateformes comme TikTok et autres. C'est parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas Andrew Tate, mais qui publient des vidéos d'Andrew Tate pour le faire connaître puis pour susciter l'adhésion à son programme de formation qui est supposé nous rendre tous riches.
Mais ça, c'est pas le modèle pyramidal? Faire entrer du monde, puis...
Ça ressemble à un modèle pyramidal. Puis l'affaire, c'est que Andrew Tate, c'est vraiment pas le seul à vendre sa salade sur Internet. Il y a plein d'autres influenceurs, t'as plein d'autres de publicité en ligne qui annoncent des supposées occasions d'affaires plus ou moins pyramidales pour faire de l'argent facile. T'as déjà vu sans doute passer toutes sortes d'annonces sur Internet qui nous disent « Toi aussi, tu peux être riche. Tu peux te partir ta business en faisant juste 5 minutes de copier-coller par jour. » dans le confort de ton salon, puis faire plusieurs milliers de dollars. Puis toutes ces annonces-là, c'est pas juste Andrew Tate, hein. Toutes ces annonces-là nous font un peu miroiter le rêve d'une liberté financière sans trop avoir à travailler. Dans les vidéos, on voit des gars qui essayent de nous convaincre, puis qui sont sur la plage, sont dans le sud, ils nous montrent leur jet privé, leur char exotique, leur manoir. Bon. Et je dirais que le problème dans tout ça... c'est que l'argent facile, tu vas être d'accord avec moi, Marianne, c'est que ça n'existe pas vraiment.
Ben, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, des fois, les formations ont l'air assez legit. Des fois, les formations, c'est pas si cher que ça. Puis, tu sais, je veux dire, mettons une formation sur la bourse, là. C'est pas nécessairement un scam, mais ça peut aussi l'être, tu sais. je suis vraiment partagée à savoir comment dire qu'un programme est correct, puis l'autre l'est pas. Puis je suis sûre que la plupart des consommateurs aussi sont dans ce bain-là. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Des formations pour investir, des formations en finances personnelles, c'est tout à fait pertinent, même qu'il y a un gros travail d'éducation à faire là-dessus. Mm. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui veut juste nous apprendre à bien gérer nos finances, puis un autre qui nous promet qu'on va être riche du jour au lendemain, puis qu'on va avoir les voitures de luxe, puis tout le kit qui va suivre.
C'est ça, dans le fond, une formation, c'est pour t'amener des connaissances, des compétences, mais c'est pas un concours de t'as tant de chances de gagner 10 millions à la fin, ou tout le monde va recevoir un prix si vous inscrivez, c'est pas ça. Pas dans le sens que ça nous dit qu'on va gagner un prix, mais ils nous promettent un montant d'argent.
Puis c'est ça, c'est vraiment la promesse de faire beaucoup d'argent qui est problématique avec Andrew Tate, qui nous promet qu'on va devenir aussi riche que lui, puis il y a plein d'autres aussi.
Il y en a d'autres, oui.
Publicité sur Internet, qu'on peut se dire que quand c'est trop beau pour être vrai, ben peut-être que c'est pas vrai aussi. Puis personnellement, ce que j'ai pu voir de plusieurs types de ces formations-là, comme celle donnée par Andrew Tate, c'est que ça m'apparaît très douteux. Par exemple, ça peut être des formations pour apprendre à faire du dropshipping, pour investir dans la crypto-monnaie, dans les NFT, ou se lancer sur des plateformes d'investissement automatisé en bourse. Il y a toutes sortes d'investissements légitimes, mais se faire promettre mer et monde avec ce genre de formation-là, c'est peut-être beaucoup plus douteux. Puis j'ai bien de la difficulté à penser que ce genre de combine-là va vraiment permettre à n'importe qui de devenir riche instantanément. Puis en fait, ce que ça laisse à penser, c'est que la principale source de revenus de ces entreprises-là repose pas vraiment sur la valeur du produit, de la formation qui est donnée, mais surtout sur le recrutement de nouveaux clients. Comme tu parlais de la vente pyramidale, le but, ça a l'air surtout de convaincre des nouveaux poissons de payer pour accéder à un contenu qui, eux, espèrent devenir multimillionnaires du jour au lendemain. Puis en bout de ligne, ce qu'on peut penser, c'est que ces programmes-là sont surtout payants pour la personne qui a parti l'entreprise plutôt que pour les milliers de personnes qui s'y inscrivent. Puis pour revenir à Andrew Tate, ben dans son cas, il y aurait eu plus que 100 000 abonnés à la Hustlers University. Donc si on fait un calcul rapide, ben ça représente plusieurs millions de revenus par mois dans les poches à Andrew Tate. C'est un peu comme ça qu'il fait son argent. Mais j'ai bien des doutes que les abonnés à ces formations en ligne font ce genre d'argent-là de leur côté.
Puis, un argument qui revient beaucoup de ces organisations-là, c'est que ben, la vie est pyramidale de toute façon. Puis c'est vrai que quand on regarde n'importe quelle organisation, n'importe quel moyen de faire de l'argent, tu sais, il y a quelqu'un au bout qui en fait plus, puis qui en fait un peu sur, je veux pas dire le dos des autres, mais tu sais, essentiellement, c'est un modèle... C'est un modèle qu'on voit, qui est appliqué différemment, mais qu'on voit que ça repose pas sur le fait de ramener des personnes, mais vraiment plus sur la qualité du produit. Mais c'est quoi la ligne entre c'est légal puis c'est de la vente pyramidale, ça?
C'est difficile de se prononcer sur la légalité de ces pratiques-là.
Il me semble que ça fait des années qu'on en parle.
Ben, il faudrait vraiment faire une enquête exhaustive sur chacun des cas, chacun de ces types de programmes-là qui sont annoncés un peu partout sur Internet. Mais disons que comme avocat en protection du consommateur, moi, j'ai des questionnements. Puis le premier questionnement, effectivement, sur la légalité, c'est la question de la vente pyramidale, comme tu l'as soulevé. Un système de vente pyramidale, c'est un modèle d'affaires qui est fondé principalement sur le recrutement de nouveaux participants. Par exemple, toi, Marianne, tu payes 500$ pour embarquer dans un système, puis par la suite, on va t'offrir un gros montant d'argent si tu parviens à recruter un certain nombre de participants.
Okay.
Qui, eux aussi, à leur tour, vont recruter d'autres participants pour se faire rembourser, etc., etc., jusqu'à ce que la pyramide s'effondre inévitablement. Et ça, c'est complètement illégal au Canada. La difficulté, par contre, c'est que la ligne est mince entre la vente pyramidale et ce qu'on appelle la commercialisation à palier multiple.
C'est ça. Ou je pense en anglais, c'est multi-level marketing. Okay, ouais,
ça,
MLM.
C'est légal. Okay. Puis, la nuance entre les deux, c'est que la commercialisation à palier multiple, ça vise la vente de produits légitimes. Donc, des produits de beauté, par exemple.
Mm-hmm.
Puis qu'on peut recruter des nouveaux participants dans le système de palier multiple, pourvu qu'on respecte certains paramètres. Mais c'est pas simple toujours de déterminer où ça se situe dans tout ça, un programme de formation comme Andrew Tate. Est-ce que c'est de la commercialisation de palier multiple? Est-ce que c'est de la vente à pyramidale? De la vente pyramidale, mais ce que je dirais, c'est que dans bien des cas, là, bien de ces programmes-là que j'ai vu annoncer qui nous promettent mer et monde, dans bien des cas, ça me fait sourciller quand même. Là.
Ouais. Puis je trouve ça difficile à voir parce que t'as-tu quelqu'un dans ton entourage qui a déjà essayé de t'approcher par rapport à un multi-level marketing ou...
Ben, vente pyramidale, ça m'est arrivé il y a quelques années que quelqu'un m'avait approché avant que je sois avocat en protection du consommateur. Il m'avait approché là-dessus.
C'est par la suite que t'as décidé de faire carrière là-dedans.
Non. Mais la façon que c'est promu, c'est intéressant, les ventes pyramidales, c'est que c'est souvent enrobé de bienveillance. Hein. Ça va souvent s'appeler comme le cercle du partage ou la confrérie de l'amitié. Puis tu
Mais c'est ça que je trouve difficile. Puis souvent, c'est du monde, des fois, qui vont être proches de toi ou semi, mais que tu avais des bonnes relations avec. Je trouve ça tellement tough de voir des relations se faire brûler à cause de ça ou des relations qui décident d'unir leurs forces puis d'en brûler encore plus. Ça, c'est une autre affaire. Mais ce qui est le plus bizarre, c'est quand je vois quelqu'un que je connais, je sais que c'est pas du tout son domaine, puis que là, il arrive devant moi, puis il est comme « Ah, oh, regarde, qu'est-ce que je te présente, ces produits-là, ces produits-ci. » Tu sais, il y a pas un peu de la fausse représentation à m'amener?
Ben, c'est le deuxième questionnement que j'ai par rapport à tous ces systèmes-là, c'est vraiment la question de la fausse représentation. C'est vraiment pas nouveau dans l'histoire de l'humanité qu'il y a des personnages malveillants qui invitent les consommateurs à investir dans toutes sortes de modèles d'affaires frauduleux ou à s'inscrire à des formations qui promettent de nous faire fortune. Ça existe depuis toujours. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a certaines protections légales contre ça. Par exemple, la loi sur la protection du consommateur, elle interdit à un commerçant de faire une fausse représentation concernant la rentabilité d'une occasion d'affaires. Ça, c'est interdit. Donc, si je fais croire à quelqu'un qui va me faire, que je vais faire bien de l'argent en investissant dans ma business, puis que c'est complètement faux, si je dis, investis 2 000 $ puis finalement, j'ai rien en retour.
Ce que je trouve complètement ironique, là, c'est que, genre, tu pourrais demander à, je sais pas, le monde de Tesla, les actionnaires de Tesla, whatever, des grosses compagnies cotées en bourse, puis leur dire « Ah, oh, si j'investis dans votre entreprise, ça va être bon, hein, je vais faire de l'argent. » Puis même eux, ils vont vous dire comme « Il y a des risques, ben c'est la bourse. » Puis on s'entend, c'est des énormes entreprises. Fait que je trouve le clash est un peu débile de penser qu'on pourrait faire de l'argent aussi rapidement.
Quand on investit dans une entreprise qui est cotée en bourse, normalement, il y a des obligations de divulgation. L'entreprise peut pas dire n'importe quoi à ses investisseurs. Ici, à côté, ce qu'on voit, c'est des annonces sur YouTube ou sur TikTok de quelqu'un qui me promet que hey, ça sera pas compliqué, tu vas atteindre la liberté financière en 2 mois puis que tu vas pouvoir faire rentrer de l'argent à plusieurs milliers de dollars par mois.
Ouais.
Effectivement, il y a un problème. Comme je disais, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est peut-être que c'est pas vrai. Mais comme je dis, il y a de l'encadrement légal par rapport à ça. La vente pyramidale, c'est interdit. Les fausses représentations, c'est interdit. Il manque pas nécessairement de prise à la loi pour intervenir ou du moins pour enquêter contre tous ces charlatans de TikTok. Sauf que c'est bien beau avoir des lois.
J'aimerais dire que t'es sur TikTok toi aussi, Alexandre. Mais t'es pas un charlatan.
Je suis pas un charlatan. J'essaie de faire de la protection du consommateur et j'essaierai jamais de vous demander de l'argent sur TikTok, contrairement à d'autres personnages qu'on y trouve. Sauf que c'est bien beau avoir des lois, mais c'est, comme toujours, c'est pas tellement utile si on les applique pas. Je pense que dans l'équation, la prévention est vraiment importante. Puis ça implique que les autorités compétentes attrapent les scammers en ligne avant qu'ils fassent trop de victimes. Puis dans ce contexte-là, pour revenir à Andrew Tate, ben je dirais qu'un bon côté d'Andrew Tate, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il nous sert un peu d'avertissement contre tous les personnages sur Internet qui nous vendent le rêve de l'argent facile. Actuellement, on est dans un contexte particulier où les gens ils courent beaucoup après l'argent puis qui sont peut-être plus vulnérables à ce genre d'attrape-là. Puis je pense que ça devient d'autant plus important d'être proactif contre ces pratiques-là actuellement.
Mmh. Ben, merci de nous avoir sensibilisés au sujet. Tu restes avec nous, Alexandre?
Oui, je reste avec vous.
Excellent. On va retrouver on va retrouver ton Yoda, Sylvie, elle qui t'a formée dans ton temps où tu faisais ton stage à Options consommateurs. Non, mais j'exagère. Vous êtes arrivé vraisemblablement... au même moment. Ça fait environ 10 ans, les deux, que vous travaillez à Options consommateurs?
Même Sylvie, ça fait plus que 10 ans. Moi, ça va faire 10 ans cette année que j'ai commencé chez Options consommateurs.
Bien là, vous faites équipe souvent, mais là, vous allez encore plus faire équipe. On va faire un peu la liste d'épiceries de ce que vous attendez du nouveau gouvernement par rapport à la protection du consommateur, aux lois sur la protection du consommateur. Sylvie est parmi nous. Bienvenue, Sylvie.
Bonjour, Marianne.
Alors, On est toujours avec Alexandre, Alexandre Plourde, toujours et présent. Maintenant Sylvie de Bellefeuille, tous les deux avocats pour Options consommateurs. Donc, le sujet, c'est quelles sont les mesures sur lesquelles le nouveau gouvernement devrait se pencher. Ça touche les clients d'Hydro, les consommateurs victimes d'obsolescence programmée, bref, pas mal l'ensemble de la population. Sylvie, tu voulais commencer?
Ben oui, en fait, il y a une loi qui a été adoptée en 2019 qui est venue changer un peu la donne en matière de tarifs d'énergie. Mm-hmm. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la loi, ce qui était prévu, c'est qu'Hydro-Québec devait plus ou moins à chaque année présenter une demande à la Régie de l'énergie pour fixer les tarifs. Puis à ce moment-là, on faisait une étude du dossier pour voir ben, quelles étaient les dépenses, quels étaient les besoins d'Hydro-Québec pour la prochaine année. Processus un peu judiciaire, là, où différents intervenants viennent présenter de la preuve. Et c'est à partir de ça que les augmentations ou les baisses de tarifs sont calculées pour Hydro-Québec. Okay. Ce qui est arrivé, c'est qu'en 2019, on a changé tout ça pour dire, ben, on fera plus des causes tarifaires à chaque année, mais on va plutôt fixer les tarifs aux 5 ans de cette façon-là. Et entre-temps, ben, les tarifs vont être augmentés en fonction de l'inflation.
OK. Donc, au lieu qu'à chaque année, ils se rencontrent puis établissent les tarifs, ils se sont dit, on va se rencontrer aux 5 ans, puis entre-temps, c'est l'inflation qui décide de notre sort.
Exactement. Ça peut sembler beau au départ, mais là, on était en 2019, il est arrivé la pandémie. Il est arrivé la guerre en Ukraine, et on est dans un contexte aujourd'hui où l'inflation a pris des proportions quand même pas mal élevées, ce qui fait que si la tendance se maintient, ben ce qu'on va voir, c'est que les augmentations vont être vraiment substantielles. La dernière hausse en avril 2022 était de 2,6%, ce qui est quand même assez élevé. Et avec ça, on a constaté qu'Hydro-Québec a fait des profits records. On parle de 3,5 milliards de dollars. Donc, c'est énorme.
Ouais.
Et là, on s'enligne encore pour une deuxième année de profits records. Donc, on accumule les records sur les records. Et si la tendance se maintient, là, on parle d'une hausse qui pourrait aller dans au moins 6% là, pour avril prochain. Donc, ça n'a aucun sens. Ce qui se passe, c'est que présentement, avec l'inflation, en fixant en fonction de l'inflation, c'est qu'on ne tient pas compte des vrais besoins d'Hydro-Québec. On tient compte, dans le fond, des facteurs économiques, alors que ça n'a pas toujours de lien direct avec les vrais besoins d'Hydro-Québec. Alors, il y a un manque de logique dans ce processus-là. En fonction, maintenant, les prix sont fixés en fonction de l'augmentation de notre panier d'épicerie, ce qui a aucune logique.
Ouais, puis ça pourrait être le fun que, tu sais, si notre panier d'épicerie augmente, ben, ça soit pas non plus notre facture d'électricité qui suive, là.
Ben, exactement. Puis quand on regarde des profits records sur profits records, ben, moi, ce que ça me laisse comprendre, c'est que probablement que les tarifs sont plus élevés présentement que ce qui est réellement
mais
nécessaire.
Mais les profits records de Hydro-Québec, peut-être que c'est une question un peu niaiseuse, mais c'est-tu des revenus du gouvernement au bout du compte?
Ben, en bout de piste, oui.
C'est étatique, cette entreprise-là? Ça appartient à l'État?
C'est un peu une bébite étrange d'Hydro-Québec. Ouais. Là. C'est un peu comme géré comme une entreprise privée, sauf que l'actionnaire principal, c'est Hydro-Québec. Okay. Pas Hydro-Québec, mais le gouvernement. Donc, ce qui fait que quand tu as des profits, ben effectivement, c'est versé ces profits-là entre les mains du gouvernement, ce qui fait en sorte que les tarifs d'Hydro peuvent devenir, dans une certaine façon, une forme de taxe. Le problème de cette taxe-là, c'est que c'est pas fixé en fonction des besoins ou en fonction des moyens qu'ont les gens de payer. Les tarifs d'Hydro-Québec, on n'a pas trop le choix là, comme consommateur. Quand on veut être chauffé, on n'a pas le choix de notre fournisseur. Ouais. Et les gens qui habitent des logements qui sont, par exemple, mal isolés, qui ont des fameux logements qui chauffent le dehors, là, souvent, c'est malheureusement des ménages à faible revenu et ces gens-là n'ont pas les moyens de payer ces tarifs-là.
Ben c'est ça, tu vas prendre un appartement qui n'est pas nécessairement tout rénové, etc., parce que ça rentre plus dans ton budget, mais la facture d'Hydro est quasiment le prix de ton loyer là, en mois de novembre, décembre.
Ben ça va très vite, donc. Pour nous, dans le fond, la solution est assez simple. Il faudrait tout simplement revenir en arrière et s'assurer que les tarifs sont fixés en fonction des besoins réels d'Hydro-Québec. Puis pour ça, c'est assez simple. Il faudrait tout simplement que les tarifs puissent être fixés par la Régie de l'énergie à chaque année. Puis à ce moment-là, ben, c'est correct qu'Hydro-Québec fasse des profits, mais encore faut-il que ce soit fait de façon raisonnable et en tenant compte de trouver un juste équilibre entre les besoins d'Hydro-Québec et les intérêts des consommateurs. Et c'est justement ça qui est le rôle de la Régie de l'énergie ici, là.
Mmh. Puis est-ce que Option consommateur a commencé à faire des démarches pour que ça l'arrive? Comment est-ce que c'est supposé arriver, ça? C'est-tu la population qui doit se lever? On doit-tu en parler dans les journaux?
Ben, il y a plusieurs façons qu'on peut faire ça. Effectivement, c'est des choses que l'on fait déjà chez Option consommateur, des représentations qu'on a fait, qu'on a même fait dès 2019 quand on a présenté le projet de loi. On est allé en commission parlementaire. Là. Une commission parlementaire, dans le fond, c'est une réunion d'un comité qui étudie la loi, et nous, on peut, sur invitation, présenter nos observations. Déjà, à ce moment-là, on avait dit « c'est pas une bonne idée parce que ça laisse les tarifs en fonction des aléas du marché ». Donc, il y a un risque pour le consommateur. Puis il y a même un risque pour Hydro-Québec aussi, hein, parce que s'il y a des besoins particuliers qui militent en fonction d'une hausse de hausse de tarifs, ben, elle pourra pas le présenter parce qu'il peut y avoir aussi des occasions où...
Ben, en ce moment, c'est eux qui sont avantagés, mais ça pourrait aussi être l'inverse. Puis, tu sais, au final, on est comme dépendants l'un de l'autre, là. Ben...
Absolument. Puis c'est correct que la société d'État fasse des profits. On n'est pas là pour dire que c'est pas correct, mais encore faut-il que ce soit fait de façon raisonnable tout en gardant un équilibre pour l'ensemble des consommateurs d'énergie, mmh.
Puis la commission parlementaire, c'est ça?
Oui, ça, c'était une commission parlementaire. On a présenté nos arguments à ce moment-là. Il y a plusieurs autres intervenants qui étaient allés.
Ben c'est ça que je me demandais. Je sais pas si c'est comme huis clos, ces rencontres-là, whatever, mais est-ce que... C'était quoi l'avis général de toutes les gens qui étaient là-bas? C'était-tu pas mal partagé ou...
Ben en fait, la plupart des intervenants qui étaient là, la quasi-majorité a indiqué que le projet de loi était pas une bonne idée.
Okay.
Il y a un intervenant qui a appuyé ce projet de loi-là, comme par hasard, c'était Hydro-Québec.
Mmh. Donc, le gouvernement.
d'une certaine façon.
Je suis juste l'animatrice, là. Moi, j'y vois avocat, j'ai le droit de le dire.
d'une certaine façon, c'est pas directement le gouvernement, là, quand même, okay. Des comités de gestion qui sont complètement distincts. Ouais. Il n'y avait pas que la fixation des tarifs qui était dans le projet de loi, il y avait d'autres éléments aussi, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'on pourrait s'y perdre. Mais bref, il y a vraiment ici un besoin de retourner devant la Régie de l'énergie pour simplement qu'on puisse fixer des tarifs qui sont raisonnables et qui tiennent compte réellement de la situation.
Mm. Puis est-ce qu'on risque de voir une différence très rapidement sur notre facture d'électricité si ça passe...
Ben oui, la prochaine hausse de tarifs, si la loi ne change pas, là, la prochaine hausse de tarifs qui est prévue...
Ben c'est là,
ça va être là. Ben, on en a déjà eu une là, récemment. Ouais. Les tarifs, habituellement, sont modifiés au mois d'avril.
Okay.
Donc, ça va être pour avril prochain, alors avril 2023. Si la tendance se maintient et qu'il n'y a rien qui est changé dans la réglementation et les lois actuelles, on parle d'une hausse de l'ordre de 6 % là, minimum.
OK. J'avais pas pensé à l'ampleur.
Ça va coûter cher chauffer mon 3,5, mal isolé.
Exactement, c'est ça qui est problématique.
Je vais devoir acheter un troisième chat pour me coller la nuit. Ben, je vais laisser la parole à Alexandre, là, parce que je sens qu'il veut participer à la discussion et avec raison. Toi, Alexandre, qu'est-ce que tu attends du nouveau gouvernement?
Ben, un autre aspect là, qu'on pourrait suggérer au nouveau gouvernement là de plancher, c'est toute la question de la modernisation de la loi sur la protection du consommateur. Mm-hmm. Donc là, on ne sait pas exactement au moment d'enregistrer ce podcast qui sera le prochain gouvernement. Les sondages nous donnent de bons indices sur qui sera le prochain premier ministre. Il pourrait toujours avoir des surprises. Mais nous, ce qu'on pense, peu importe qui sera le prochain premier ministre, nous, ce qu'on lui suggère, c'est vraiment de moderniser la loi sur la protection du consommateur pour tenir compte de la complexité grandissante de la consommation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en consommation, les vieilles pratiques là, qui datent de plusieurs décennies, voire des siècles, elle persiste toujours. Le colportage, donc faire du porte-à-porte pour vendre des biens là, de maison en maison, comme des encyclopédies, ben ça existe depuis des décennies. Le crédit usurier, là, donc prêter de l'argent à des taux d'intérêt très élevés, qui était parmi les premières pratiques encadrées par les normes de protection du consommateur au Québec, ça existe encore aujourd'hui, donc ça prend des formes différentes, ça change un peu. Mais
c'est quoi, excuse, répète, le crédit usurier?
Crédit usurier, c'est un crédit qui est à coût élevé, donc charge un taux d'intérêt qui est très élevé, donc par exemple 60 %, pour te prêter de l'argent. Ça peut être fait de différentes façons maintenant, par exemple en imposant un frais de crédit qui est très élevé, puis un taux d'intérêt qui est peut-être plus bas, mais de manière effective, au bout de la ligne, je me mets à payer très cher. C'est des pratiques qui existent encore aujourd'hui. Il y a toutes sortes de sites maintenant qui nous proposent d'emprunter de l'argent facile encore là sur Internet. Ça existait il y a des décennies, ce genre de pratique-là, sur d'autres formes, mais ça existe depuis très longtemps. Mais en plus, la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a de nouvelles pratiques qui s'ajoutent dans le contexte numérique. Donc, il y a les vieilles pratiques qui subsistent, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent. Tout ce qui est commerce en ligne, ça n'existait pas dans les années 70, là, il y a bien longtemps, Marianne. lorsque la loi sur la protection du consommateur a été adoptée, tout ce qui est économie de partage, dont je voulais vous parler tantôt, il y a des nouveaux modes de paiement, des nouvelles façons de consommer. Donc, la consommation, ça change beaucoup. C'est sûr que la loi sur la protection du consommateur qu'on a au Québec, c'est une bonne loi qui a du mordant, qui encadre bien les commerçants, qui a des sanctions qui sont intéressantes aussi pour les consommateurs. Mais tranquillement, ce qu'on voit poindre, c'est qu'il y a des brèches qui se créent dans cette loi-là. Puis ce qu'on considère, c'est que le nouveau gouvernement, le nouveau premier ministre qu'on va avoir, ben, il devrait s'y attaquer à notre avis. Puis parmi bien des choses qui pourraient être changées dans la loi sur la protection du consommateur, je vais en nommer trois. Et la première, c'est la question de la vente itinérante. Donc, je vais te parler de colportage. Mm-hmm. Ça existe depuis longtemps. Aujourd'hui, les vendeurs itinérants, ils nous vendent plus des encyclopédies ou des aspirateurs comme dans le bon vieux temps. Maintenant, c'est plus des panneaux solaires, des thermopompes, des services d'asphaltage, de la rénovation de résidentielle, ce genre de choses-là qui nous est vendu maintenant par des personnes qui cognent à notre porte. Et ce marché-là, il y a vraiment toutes sortes de problèmes. C'est connu pour la vente à pression, par exemple, qui est faite à des clientèles vulnérables. Il y a beaucoup de personnes âgées, des aînés, qu'on voit se faire vendre des thermopompes de manière très insistante. Le vendeur peut dire, ben écoutez, là, c'est tout de suite, il faut que ça soit signé le contrat, puis c'est vraiment avantageux pour vous. Puis on profite un peu de la vulnérabilité des gens en se présentant directement chez eux pour leur vendre des contrats qui sont souvent onéreux. Des thermopompes peuvent coûter 15 000, 20 000 $ facilement. Il y a de la fausse représentation dans ce marché-là aussi. Je vends une thermopompe à quelqu'un en lui disant qu'il va avoir des grosses économies d'énergie. Puis là, ça peut être tentant en plus, parce que Sylvie nous disait que l'hydro augmentait pas mal. Mais souvent, ces économies d'énergie-là peuvent être exagérées. On peut faire croire aussi au consommateur qu'il va avoir un crédit d'impôt s'il achète une thermopompe ou des panneaux solaires, ce qui est pas toujours avéré. Mauvaise qualité des biens. Souvent, les thermopompes qui sont vendues peuvent être des articles qui sont cheap, on va le dire comme ça, qui sont vendus pourtant à prix élevé, puis souvent c'est vendu à crédit aussi. Donc non seulement j'achète un bien de mauvaise qualité, je l'achète à crédit puis je le paye pendant des années en plus. Puis quand il survient un problème, le consommateur réalise que son bien il fonctionne mal ou qu'il veut annuler la vente, ben le pépin qui se présente, c'est que l'entreprise souvent elle a fait faillite, elle a disparu dans la nature, puis moi comme consommateur, ben je suis plus capable de trouver l'interlocuteur à me poursuivre ou faire valoir mes droits. Donc face à tous ces problèmes-là, ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a quand même un encadrement dans la loi sur la protection du consommateur. Okay. La vente itinérante, c'est encadré. Ça prend notamment un contrat écrit qui est remis au consommateur lorsque je lui vends un bien à sa maison. Il y a un permis obligatoire aussi qui doit être obtenu par le vendeur itinérant. Il y a des délais d'annulation pour ces contrats-là. J'ai un délai d'annulation général de 10 jours pour un contrat de vente itinérante. Donc, si le vendeur itinérant se présente chez moi, je peux y acheter tout son stock. Là. T'sais, je peux y acheter l'aspirateur, les encyclopédies, panneaux solaires, thermopompe, toute la kit. Là. Je peux tout y acheter ça, puis j'ai un délai de 10 jours à ma simple discrétion pour annuler tout ça. Puis en vertu de la loi, il est supposé reprendre tous ses biens, puis j'ai pas besoin d'avoir de raison pour l'annuler.
Okay.
La loi prévoit déjà ça.
Quelqu'un qui nous écoute, puis que ça lui arrive, ouais. Vous avez 10 jours.
C'est 10 jours, faut faire vite. Le délai peut être étendu à un an dans certaines circonstances, mais le délai général, ça va être de 10 jours. Donc, faire vite, 10 jours, ça passe vite quand même. Nous, ce qu'on propose quand même, au regard de tous les problèmes qu'il y a dans ce marché-là, c'est vraiment de resserrer l'encadrement de la vente itinérante. Une des choses qui pourrait être faite, ça serait interdire la vente de certains biens, la vente qui se fait de porte à porte. Principalement, je vous parle de thermopompes depuis tantôt. Je dirais que les thermopompes, c'est peut-être le bien le plus problématique. Puis ce qu'on se dit, c'est qu'on pourrait carrément interdire la vente de ce type de bien-là. C'est tellement problématique, ce marché-là. Si les gens veulent s'acheter une thermopompe, qu'ils se renseignent, qu'ils aillent au magasin, qu'ils magasinent...
Mais ça se vend dans les magasins, dans le fond.
Oui, puis c'est peut-être pas le genre de choses que c'est une bonne idée d'acheter d'un vendeur qui se présente chez nous. C'est le genre de choses qu'on devrait prendre le temps de magasiner, comme n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Je vais peut-être lancer quelque chose de controversé, mais de manière générale... C'est jamais vraiment une bonne idée d'acheter quelque chose à l'improviste de quelqu'un qui se présente chez nous en porte-à-porte, à moins que ce soit quelque chose comme une palette de chocolat. Un autre aspect qu'on proposerait aussi comme resserrement à la loi, ça serait obliger le commerçant à respecter un certain délai avant de commencer les travaux chez un consommateur. Ce qu'on voit souvent, c'est que les commerçants, ils vont vendre la thermopompe puis ils l'installent tout de suite. Là. Tout de suite, le lendemain, ils sont là en train d'installer les tuyaux dans la maison puis toute la grosse installation. Le consommateur, dans ces circonstances-là, ben il pense qu'il n'a pas le droit nécessairement d'annuler le contrat. C'est beaucoup plus difficile par la suite pour lui de changer d'idée. Ouais. Donc, il se retrouve un peu pris au piège. Nous, ce qu'on dirait, attendre un délai au moins... de 10 jours, 30 jours, en tout cas, un certain délai avant d'installer les équipements chez le consommateur pour lui donner le temps de réfléchir, pour lui donner le temps d'annuler son contrat, parce que là, sinon, tu signes le contrat le soir, le lendemain matin, ils sont chez toi, puis le lendemain matin, tu prends ton café, tu es en train de te dire « Coudon, je viens de signer un contrat de 15 000 $ hier pour une thermopompe, j'ai-tu vraiment besoin de ça? C'est-tu vraiment une bonne idée? » Je me suis fait avoir, mais ding-dong, ils sonnent, ils sont déjà en train d'installer, donc...
Hey, je veux pas te presser, mais on commence à arriver à terme, fait que je me demandais si tu voulais un peu fermer sur la lutte à l'obsolète, ben, sur la vente itinérante, puis aller à l'économie de partage, que je sais pas trop c'est quoi, puis je trouve ça a l'air très intéressant.
Ben, économie de partage, on prend jaser un peu, c'est un autre aspect que nous, on pense qu'il devrait être encadré davantage par la loi, puis... Je pense qu'avec la pandémie, les problèmes de ce domaine-là ont été mis en exergue, en fait. Surtout tout ce qui touche l'achat de voyage. Quand je parle d'économie de partage, je parle des plateformes comme Expedia, Airbnb, Uber. Tout ce type de plateformes-là qui font un peu l'intermédiaire entre un fournisseur de services, qui peut être un particulier ou un commerçant, puis le consommateur, sont un peu entre les deux. Là. Quand je vais sur Expedia, c'est pas eux qui me fournissent les services de voyage. C'est une entreprise tierce de laquelle j'achète les services de voyage. Le problème de ces entreprises-là, puis on l'a vu particulièrement dans la pandémie, c'est que ces entreprises-là, leur modus operandi ou leur devise, c'est « nous ne sommes pas responsables ». Donc, s'il survient un problème avec ton fournisseur de voyage, quoi que ce soit, elles vont toujours dire « ben, règle ça avec ton fournisseur, nous, on est juste intermédiaire, on est un tiers dans cette relation-là ». Moi, je pense que c'est pas acceptable. Je pense qu'on devrait resserrer la loi à cet égard-là. Quand je fais affaire avec Expedia, c'est eux qui fixent les modalités de la vente, qui fixent les prix, qui fixent les modalités contractuelles. Puis pourtant, elles se disent tout le temps non responsables. Je pense qu'on devrait resserrer la loi une fois pour toutes pour que on fasse en sorte que ces entreprises-là soient explicitement responsables s'il survient un problème. Donc, si j'ai un enjeu avec un intermédiaire de ce type-là, je pense que il devrait être tenu responsable de me rembourser, puis c'est à lui de régler ce problème avec le fournisseur auprès duquel j'ai fait la transaction. Si je prends l'exemple d'Expedia, de toute façon, je pense qu'ils ont déjà cette responsabilité-là. Pourquoi? Ouais. Parce que, au sens de la loi, à mon avis, c'est une agence de voyage, puis l'agence de voyage, elle est responsable de rembourser le consommateur s'il survient un problème. Mais ce qu'on a vu dans la pandémie, c'est que souvent, ces entreprises-là disaient « ben règle ça avec l'hôtel auprès duquel tu as acheté ton forfait ou le transporteur aérien », puis ça met les consommateurs dans des situations difficiles pour se faire rembourser.
Mais donc, on voit que la responsabilité tombe beaucoup sur le consommateur.
Oui, oui. Puis eux autres disent « nous, on a juste un intermédiaire », mais c'est pas vrai. Puis je pense qu'il est temps. Puis c'est des entreprises qui sont très grosses, c'est des multinationales, puis elles auraient les reins suffisamment solides pour régler ces problèmes-là, justement, avec les fournisseurs, de manière beaucoup plus efficace pour les consommateurs.
OK. Donc, on souhaite une modernisation, un resserrement des lois pour l'économie de partage.
Oui.
Est-ce que tu voulais terminer avec un petit quelque chose?
Ben, si tu veux, on peut parler de la lutte à l'obsolescence programmée aussi. Moi, on pourrait en parler jusqu'à demain matin de la réforme de la loi sur la protection du consommateur.
Le gars des vues, ou plus la fille des vues, me dit « oui, c'est beau, on a le temps
». Mais... Mais en fait, un gros problème pour les consommateurs, puis qui est un peu mis en exergue encore là par tout le contexte inflationniste qu'on a, dont Sylvie parlait, c'est que beaucoup d'appareils qu'on achète n'ont pas une durée de vie raisonnable. Hein. Ils brisent rapidement, puis aussi, ils peuvent être difficiles à réparer. Si t'as un iPhone qui brise, ou là, je vois que t'as un Apple devant toi.
Un ordinateur, oui.
Un Apple, effectivement. Un ordinateur Apple qui brise. Ça risque d'être assez difficile pour toi de réparer ça, d'ouvrir cet appareil-là, puis le réparer toi-même. Puis souvent, il peut y avoir toutes sortes de restrictions dans la conception de l'appareil, ou même des restrictions qui sont imposées par le fabricant qui nous empêchent de réparer l'appareil. Puis la difficulté de la baisse de durée de vie des appareils, c'est que c'est vraiment... Bon, oui, ça a des conséquences environnementales.
C'est clair.
Mais ça a des conséquences pour ton budget aussi comme consommatrice. Si un appareil, le cycle de vie baisse, puis je suis obligé de m'en acheter un nouveau, puis que je suis pas capable de le réparer, ben moi, ça me coûte plus cher comme consommateur pour acheter... ça implique des dépenses pour moi. Puis dans le contexte inflationniste, je pense que ça serait vraiment important que les consommateurs puissent étirer la durée de vie de leurs biens, puissent les réparer beaucoup plus facilement. Puis ce qu'on propose en gros chez Option Consommateur, c'est d'interdire l'obsolescence programmée, évidemment, qui est de réduire la durée de vie des biens de manière délibérée par les fabricants. Mais ça serait aussi de créer un droit à la réparabilité qui permettrait un droit d'accès aux consommateurs aux pièces de rechange, aux manuels de réparation, puis qui interdirait aussi aux entreprises d'imposer toutes sortes de restrictions à la réparabilité, par exemple, d'utiliser leurs pièces à eux ou de pas faire la réparation soi-même, ce genre de choses-là, pour favoriser la réparation des appareils. Puis ça, on serait gagnant comme consommateur, non seulement sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan budgétaire.
C'est clair. Je vois dans tes notes, on parle d'indice de réparabilité. Ouais. C'est quoi ça?
Ben, ça pourrait être une autre mesure qu'on pourrait instaurer. Ça serait en fait une mesure d'information pour les consommateurs.
J'aime ça.
Donc, quand j'achète un appareil, j'aurais un indice qui me dirait « C'est-tu facile à réparer cet appareil-là ou c'est pas facile à réparer? » Donc, moi, je peux faire un choix d'achat qui est plus éclairé comme consommateur. Si je sais que l'appareil, peut-être que je paye pas cher pour cet appareil-là, mais il n'y a pas moyen de le réparer, mais peut-être que je vais payer un peu plus cher pour un appareil que je sais que s'il survient un problème, mais je vais pouvoir faire une réparation et tirer sa durée de vie pendant beaucoup plus longtemps. Donc, ça permettrait aussi de changer les pratiques du marché sur la base de l'information donnée aux consommateurs.
Oui, ce serait un indice comme utile, puis quand on a un coup d'œil pour le consommateur, ça lui donne un bon indice. Ouais. Je me répète, mais bon. Alors, on a fait le tour pour aujourd'hui à la maison. Merci de nous avoir écoutés, que ce soit dans l'auto, en faisant le ménage, en prenant votre café le matin. C'est vraiment apprécié. Si vous avez des anecdotes à nous raconter, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux. Sinon, je remercie Alexandre, je remercie Sylvie, puis on se revoit une prochaine fois.
Merci à toi, Marianne.
À la prochaine!